Et le journal de 8 heures nous est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Lionel, bonjour à tous. Trois jours pour apaiser les tensions et pour de bon. Emmanuel Macron en Algérie cet après-midi. Objectif, réchauffer les relations entre nos deux pays après des mois de brouilles diplomatiques. Le président de la République veut notamment faire la part belle pendant ce séjour à la jeunesse et à l'avenir. Ce sont les mots de l'Élysée. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Vous suivez ce déplacement du chef de l'État pour Europe 1. Jacques, le chef de l'État qui veut s'adresser donc à l'Algérie de demain.
Oui, Emmanuel Macron souhaite que cette visite soit tournée vers la jeunesse et l'avenir. Il entend, selon les mots de son entourage, poser un socle pour refonder, développer la relation entre Paris et Alger durant son déplacement. Il a donc prévu un long échange avec de jeunes entrepreneurs à Alger. Il assistera également à une démonstration de breakdance dans deux jours à Oran où il échangera avec des acteurs du monde sportif. En clair, il s'agit aussi par ce biais-là de ne pas trop regarder le passé, même si le chef de l'État entend poursuivre le travail d'apaisement des mémoires. D'ailleurs, dès sa descente de l'avion, Emmanuel Macron assistera tout à l'heure à une cérémonie d'hommage au Mémorial des Martyrs, monument érigé en mémoire des combattants indépendantistes morts durant la guerre d'Algérie. Demain, il visitera le cimetière Saint-Eugène pour rendre hommage aux morts pour la France.
Mais quels sont les autres enjeux de cette visite, Jacques ?
Oui, les sujets sont si nombreux que l'entretien du jour entre les deux dirigeants devrait durer au moins une heure et demie selon le programme officiel. Au cœur de leurs échanges, le dossier des visas accordés par la France. Paris a ces derniers mois réduit de moitié le nombre d'autorisations accordées aux ressortissants algériens. En cause, le manque de coopération d'Alger pour faire revenir sur son sol ses citoyens en situation irrégulière en France. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune veulent avancer, souligne-t-on du côté de l'Élysée. Autre enjeu, et pas des moindres, la crise énergétique, conséquence de la guerre en Ukraine et des sanctions européennes contre la Russie. L'Algérie fait partie des 10 premiers producteurs mondiaux de gaz. Le pays est même devenu le premier fournisseur de l'Italie. Si l'entourage d'Emmanuel Macron affirme qu'aucun contrat ne sera signé lors de ce déplacement, la présence dans la délégation de la directrice générale d'Engie, Catherine MacGregor, ne doit rien au hasard.
Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 à Alger pour suivre ce déplacement du chef de l'État.
Un séjour, je vous le rappelle, qu'on décryptera chaque jour sur Europe 1 avec Xavier Driancourt. Il est ancien ambassadeur de France en Algérie et il a écrit notamment l'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. Il sera notre invité tout à l'heure à 8h13 sur Europe 1.
Emmanuel Macron espère donc réchauffer les relations entre Paris et Alger. C'est d'autant plus important pour la France que l'Algérie est de plus en plus proche de la Chine et de la Russie. Échanges commerciaux, investissements dans le pétrole et les grandes infrastructures, accords de défense. L'influence de Moscou et de Pékin en Algérie n'est pas nouvelle, mais elle est encore plus forte depuis le début de la guerre en Ukraine, William Molinier.
Illustration emblématique, l'abstention de l'Algérie lors du vote de la résolution de l'ONU au début de la guerre. Alger n'a pas condamné l'invasion russe, tout comme 15 autres pays africains. Au contraire, des accords militaires ont même été signés. En novembre prochain, 160 soldats russes et algériens participeront pour la première fois ensemble à un exercice de traque des djihadistes dans le désert. Si ces liens se resserrent, c'est qu'Alger espère que Moscou l'aidera à en rentrer dans le groupe des BRICS, Russie, Inde, Brésil, Afrique du Sud et Chine. Pékin, qui est aussi un allié très stratégique, puisque 40 000 Chinois travaillent en Algérie. C'est la plus importante communauté étrangère dans le pays et la deuxième du continent africain. Les Chinois ont supplanté les Français, les Allemands et les Américains dans presque tous les grands projets d'infrastructure lancés au début des années 2000. Pékin s'intéresse aussi au pétrole algérien et investit dans le sud-est du pays où 95 millions de barils de brut doivent sortir d'ici les 25 prochaines années. Cette proximité est aussi politique. Au début du mois, l'ambassadeur algérien à Pékin a critiqué la visite de Nancy Pelosi à Taïwan en affirmant sans l'ombre d'une hésitation que Taïwan était une partie intégrante du territoire chinois.
De positionnement diamétralement opposé. Hier encore, Emmanuel Macron a renouvelé son soutien à l'Ukraine.
À l'occasion de la 31e fête nationale du pays, le chef de l'État a tenu à transmettre un message aux Ukrainiens, en ukrainien, via une vidéo postée sur Twitter. Écoutez.
Ukrainke, ukrainci. Au nom de la France, en ce jour de l'indépendance de l'Ukraine, je tenais à vous adresser ce message d'amitié, ce message d'espérance, au nom de toutes les Françaises et de tous les Français. Il y a 6 mois, jour pour jour, la Russie a fait un choix funeste, celui de mener une guerre à votre pays, à votre peuple, en semant la mort et la destruction. Dans quelques jours, un navire quittera le port de Marseille pour acheminer des vivres, du matériel médical, du matériel de réhabilitation d'urgence. Défendre la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, c'est défendre la stabilité de notre monde. C'est refuser que les relations internationales puissent être régies par la violence et par le chaos.
Emmanuel Macron qui avait le même ton grave hein, d'ailleurs hier lors du Conseil des ministres de rentrée.
Oui, le chef de l'État a sonné le glas du quoi qu'il en coûte. La fin, dit-il, de l'abondance, de l'évidence et de l'insouciance. Propos indécent pour Jean-Luc Mélenchon, mais lucide selon la majorité, car les perspectives économiques françaises sont plutôt obscures, comme l'explique l'économiste Marc Touati à Margot Fodéré.
Aujourd'hui, les entreprises françaises sont face à un dilemme parce qu'elles ont parfois des carnets de commandes bien remplis, mais elles n'ont pas la main d'œuvre en face pour répondre à ces commandes. Donc, elles sont obligées de limiter leur activité. Et sur ce, malheureusement, arrive maintenant la récession économique. Et donc, le climat des affaires va bien sûr se détériorer. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on a été sauvé par le tourisme, hein, disons-le. Par contre, l'industrie est déjà en train de replonger dans la récession. Donc, ce qui fait que malheureusement, l'ensemble de l'économie française va connaître une baisse de l'activité. S'il y a une récession économique, le chômage, qui a déjà augmenté au deuxième trimestre, va continuer de progresser. Plus de chômage, ça veut dire moins de pouvoir d'achat, moins de consommation, qui est déjà affectée par une forte inflation. Donc, c'est un peu le cercle pernicieux qui est en train de nous menacer. Donc, ça ne va pas améliorer la situation.
La situation dont on aura des chiffres précis à 8h45 avec la publication de l'indicateur mensuel sur la conjoncture économique de l'INSEE.
8h07 sur Europe 1. N'achetez plus de stylos à billes à vos enfants. C'est le message, presque un message d'alerte de l'UFC. Que choisir ce matin?
Selon l'Association de défense des consommateurs, ces stylos contiennent de nombreux composants dangereux, des perturbateurs endocriniens, des impuretés cancérogènes, des hydrocarbures. Des alertes qui ont poussé l'Agence nationale de la sécurité sanitaire à demander une législation plus restrictive sur la composition des stylos à billes.
La santé toujours, avec un trafic d'ordonnances dans le viseur des autorités.
C'est une arnaque plutôt simple sur le papier. Obtenir des médicaments remboursés pour les revendre ensuite à l'étranger. Mais la fraude est d'autant plus grave qu'elle concerne des traitements contre le cancer qui manquent déjà cruellement dans les officines françaises. En mai dernier, 14 de ces trafiquants ont été condamnés à Mulhouse. Ils avaient détourné 700 000 euros de médicaments avec une méthode bien rodée, hein, Marine Sabourin.
Oui, ce sont les jeunes adultes appâtés par de grosses sommes d'argent. Ils sont démarchés sur Snapchat. Les trafiquants leur proposent 1 000 euros pour aller chercher des médicaments en pharmacie avec de fausses ordonnances. Des ordonnances factices réalisées à la perfection. Signature de cancérologue reconnu, en tête d'hôpitaux, tout y est. Seule condition pour participer et avoir une carte vitale. Une fois récupérés, ces médicaments anti-cancer sont revendus plusieurs milliers d'euros à l'étranger. Le trafic d'ordonnances est un délit connu, mais contre le cancer, c'est inédit, explique Alain Delgut du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
On l'avait observé il y a déjà quelques années, à l'époque où la codéine est passée sur ordonnance. Et là maintenant, on passe à autre chose. Depuis à peu près 2 ans, on voit ça. Des médicaments anticancéreux, donc des médicaments souvent qui sont très chers.
Les professionnels de santé craignent une pénurie de médicaments anti-cancer et proposent une solution, la e-prescription. Des ordonnances conservées sur un serveur sécurisé avec un QR code. Quant aux trafiquants, ils s'exposent à une amende de 750 000 euros et jusqu'à 7 ans d'emprisonnement.
Marine Sabourin.
On termine ce journal, Fanny, avec un voyage dans le temps sur les traces de nos ancêtres très très lointains.
Eh bien, bien plus lointains encore que ce qu'on pensait. Mais oui, selon une étude publiée dans le magazine américain Nature, l'être humain était déjà capable de marcher sur ses deux jambes il y a, tenez-vous bien, 7 millions d'années. Une découverte capitale pour mieux comprendre notre histoire lors d'Autriche.
Il est le plus ancien représentant de l'humanité et vivait en Afrique, au Tchad, il y a 7 millions d'années. Son nom, Sahelanthrope, l'homme du Sahel. Après 26 ans de fouilles au Tchad, les chercheurs ont réussi, en analysant un morceau de fémur et deux os du coude, à savoir comment cet homme se déplaçait. Il marchait à quatre pattes, mais aussi sur ses deux pattes arrière, explique le paléoanthropologue Guillaume Davert, qui fait partie de l'équipe de recherche.
On sait que le Sahelanthrope était certainement capable de se déplacer en bipédie, dans les arbres, et certainement au sol, et que ce dernier, en tout cas dans les arbres, devait encore être capable de pratiquer une forme de quadrupédie précautionneuse. Il se trouve que le fémur du Sahelanthrope, là encore, est plus proche très clairement de celui d'un humain en général que d'un chimpanzé.
Le Sahelanthrope, il y a 7 millions d'années, n'a déjà à l'époque plus aucun point commun avec le chimpanzé. Il ne marche pas sur les phalanges comme les gorilles et les chimpanzés, mais il se déplace presque comme l'homme actuel. Et on a aujourd'hui la preuve que tous les représentants de l'humanité à travers l'histoire étaient bipèdes.
Autriche, on a encore tellement à apprendre sur notre propre histoire. C'est fascinant. Merci.
C'est bien vrai. Merci. C'était le journal de Fanny Marceau. Vous revenez à 9h, Fanny.
À tout à l'heure.
8h10, l'essentiel des sports.
Passionné de sport, c'est l'heure du journal des sports. Avec